Les matins de France Culture. Guillaume Erner.
Et nous recevons Pierre Rosanvallon, historien et professeur au Collège de France. Bonjour Pierre Rosanvallon.
Bonjour.
Vous publiez un livre important, Notre histoire intellectuelle et politique, 1968-2018. Il paraît au Seuil. On a l'habitude des ouvrages où vous racontez l'histoire du suffrage, l'histoire du suffrage censitaire, l'histoire de la République. C'est la première fois que vous livrez en quelque sorte votre histoire en tant qu'intellectuel et en tant qu'intellectuel de gauche, on peut le dire. C'est un ouvrage qui est mélancolique et assez désillusionné, en tout cas c'est ma lecture, vis-à-vis de la politique et vis-à-vis des intellectuels. Et vous déplorez finalement une incapacité des politiques à se saisir de la situation sociale, mais aussi dans le même temps une incapacité des intellectuels à prendre en compte, les enjeux de l'époque et à s'opposer à une certaine droitisation de notre société. Et évidemment, cela fait complètement écho à l'actualité du jour, puisque si j'ouvre Libération, je remarque par exemple ce titre. En Allemagne, l'extrême droite, autrement dit l'AFD, fait même déraper la gauche, gênée par la montée et les outrances du parti d'extrême droite, le SPD, les Verts et Die Linke, sont partagés sur la stratégie à adopter pour ne pas perdre leurs électeurs. Ce titre, il fait écho, par exemple, à ce que l'on peut également trouver dans Le Point, nationaliste et socialiste à la fois, avec une photo de Jean-Luc Mélenchon, c'est plus polémique, mais enfin, cela montre quand même le désarroi, Pierre Rosanvallon, de la gauche, par rapport à la montée du populisme et par rapport à la montée de l'extrême droite. Cela signifie-t-il que la gauche, finalement, est rattrapée par son impensé ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que il faut aujourd'hui sortir du désenchantement, de la déploration et de la mélancolie, en n'oubliant pas une donnée essentielle. C'est il y a 30 ans exactement, aux élections législatives en France de 1988, que le Front National a fait sa première percée en approchant les 15%. C'est-à-dire que aujourd'hui, on met à juste titre l'accent sur le succès relatif de l'AFD. Mais hier, c'était l'Italie. Avant-hier, c'était la Pologne et la Hongrie. Et puis, avant-avant-hier, c'était les Flamands, c'était les Danois. Donc, nous sommes dans un grand mouvement historique auquel nous avons le sentiment d'assister de façon relativement impuissante. Et si j'ai écrit ce livre, c'est justement pour essayer de sortir de l'impuissance. J'ai écrit ce livre pour réarmer le présent. Et comment ? Comment ? Eh bien justement en comprenant pourquoi nous en étions arrivés là. Vous avez raison de dire qu'il y a une sorte de vide de la pensée de gauche. Car s'il y a une chose sûre, c'est que les progrès de l'extrême droite, et on peut dire plus largement de tous les populismes, ces progrès, ils sont indexés sur l'existence d'un vide. Ce sont des électeurs qui se raccrochent à quelque chose par des aspects, les plus noirs, en quelque sorte, de l'histoire européenne. Mais si nous ne comprenons pas comment nous en sommes arrivés là et pourquoi, depuis 30 ans, nous piétinons, parce que c'est bien ça.
Mais alors justement, pourquoi les intellectuels de gauche sont-ils à côté de la plaque ?
Eh bien, je dirais qu'ils ont été, pas tous et pas de la même façon, mais globalement, votre jugement est sévère, mais acceptons-le, en tout cas de façon temporaire, que les intellectuels sont à côté de la plaque. Je dirais, ils sont à côté de la plaque en termes très généraux pour dessiner des nouvelles visions. Mais ils ne sont pas forcément à côté de la plaque pour parler précisément de la société. Les sciences sociales n'ont pas été aveugles depuis 30 ans. Elles ont parlé de tout un ensemble de phénomènes, des transformations de la société, des transformations du capitalisme, des transformations des banlieues. On a aussi bien analysé le désenchantement démocratique. Mais ce qui manque, c'est en quelque sorte le dessin d'un chemin. Et pourquoi n'y a-t-il plus ce chemin, on pourrait dire, une vision du progrès, pour faire très vite? Eh bien, s'il n'y en a plus, c'est pour une raison, me semble-t-il, absolument essentielle, c'est que le monde intellectuel s'est organisé, on pourrait dire, autour de plusieurs refuges. Un premier refuge, je dirais, c'est un refuge moral, un refuge psychologique, c'est justement la mélancolie. en disant ce qui nous arrive est terrible et il faut vivre avec d'une certaine façon. Et là, évidemment, le nom de Benjamin a refait surface comme exemple de cette...
Walter Benjamin, un grand philosophe
essayiste allemand qui a s'est suicidé de désespoir, justement, pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors qu'il essayait de passer en Espagne. Mais c'est aussi un sentiment qui correspond au développement, on pourrait dire, d'une espèce d'un radicalisme, ce que j'appelais une radicalité d'impuissance. Une radicalité d'impuissance, c'est-à-dire une radicalité qui condamne absolument la société contemporaine, mais qui se donne pas les moyens de réarmer ce présent.
Est-ce que ça veut dire que les intellectuels de gauche ont été trop à gauche ?
Non, le problème...
La radicalité, qu'est-ce que ça veut dire ?
La radicalité, c'est-à-dire des positions, une posture. Si trop à gauche, c'est aller plus près de la critique de la réalité, c'est très bien. La radicalité critique, je suis pour, mais c'est la radicalité de posture qui fait un problème. Alors d'un côté, il y a eu peu à peu la dérive vers cette radicalité de posture, et de l'autre côté, peut-être que moi, j'étais plus proche de cet autre pôle, il y a eu le sentiment qu'il fallait d'abord combattre justement les dangers de cette radicalité de posture et avec une vision peut-être trop simpliste d'une culture de gouvernement.
Mais si je résume votre livre à grands traits, donc l'histoire de cette génération d'un intellectuel à laquelle vous appartenez, Pierre Rosanvallon, vous avez des souvenirs qui sont des souvenirs plutôt gais de la période de mai 68, une période riche sur le plan intellectuel, l'aventure de l'autogestion, un certain nombre de choses nouvelles à penser. Et puis, dès les années 80, vous dites, voilà, c'est l'engourdissement.
Pourquoi l'engourdissement arrive ? L'engourdissement arrive parce que les enthousiasmes de mai 68 ont été suivis de tout un ensemble d'explorations. Je retrace dans ce livre tout ce qui a été l'atmosphère d'enthousiasme intellectuel des années 70, dans tous les sens, avec la multiplication des revues, avec les travaux de Castoriadis, de Lefort, de Foucault, le renouveau de l'histoire politique. Par bien des biais, il y a eu un grand renouveau pendant cette période. Et après, pourquoi ça s'est mis à piétiner ? Et c'est vrai que ça s'est mis à piétiner brutalement. Pour une raison très simple, c'est que quand on a commencé à faire des explorations, il y a un moment où il faut que ces explorations elles se traduisent par la formation d'une culture politique. Moi, j'avais appelé de mes voeux avec Patrick Vivray la fondation d'une nouvelle culture politique. Mais cette nouvelle culture politique, elle n'a trouvé en fait qu'à ses moyens que dans l'ordre de l'extension des droits. C'est très bien, mais elle n'a pas trouvé complètement ses moyens dans l'ordre économique ou dans l'ordre social, la réinvention, on peut dire, de la sécurité sociale et de l'État-providence.
Mais justement, est-ce que votre génération n'a pas perdu du temps avec l'autogestion ? Aujourd'hui, l'autogestion, on ne la voit nulle part. Même les kibboutz en Israël, qui avaient poussé très loin l'autogestion, sont aujourd'hui privatisés. On peut le regretter, mais en tout cas, ça n'a pas permis d'habiter de manière différente l'économie, Pierre Rosanvallon.
L'autogestion était un mot d'ordre qui donnait une direction, mais ça n'était pas un modèle institutionnel. Mais le mot d'ordre, si le mot d'autogestion était un mot d'ordre d'accroissement de l'autonomie des individus, le fait que les gens puissent davantage prendre la parole, qu'ils ne soient pas simplement des machines et des robots dans les entreprises, tout ça reste d'actualité. Je dirais peut-être que le mot
d'autogestion... Sauf que ça a été laminé par le capitalisme.
C'était laminé par le capitalisme, mais aujourd'hui, voyons bien que nous avons aussi changé de monde. Toutes les idées neuves des années 70 ont été formulées en un temps qui est encore celui des Trente Glorieuses. Et donc, au fond, et d'une démocratie traditionnelle que l'on tendait moderniser, par exemple, simplement avec l'idéal de participation. Un capitalisme que l'on voulait encadrer avec un peu plus de syndicats, un État-providence qu'il fallait développer. Mais aujourd'hui, avec ce nouveau capitalisme, nous sommes entrés dans un autre type de société.
Vous expliquez à la fois qu'il y a une désillusion, une forme d'engourdissement, c'est vous qui employez ce terme, oui, dans les années 80, et alors un vrai désenchantement vis-à-vis du politique, c'est-à-dire que la première expérience de gauche dans la Ve République, je parle évidemment de François Mitterrand, vous la racontez de telle sorte qu'on a l'impression que c'est le début du divorce entre les intellectuels et les politiques. Vous rappelez, par exemple, qu'il n'y a pas seulement eu le tournant de la rigueur, mais qu'il y a eu également les ambiguïtés de François Mitterrand à l'égard de la Pologne, fin 80, lorsqu'il s'agissait donc de combattre l'état de siège en Pologne. François Mitterrand n'a pas trouvé de mots. Est-ce que ça signifie, là aussi, que les intellectuels de gauche sont nécessairement déçus par les expériences politiques de gauche, Pierre-Rosan Vallon?
Ils ont été déçus, c'est sûr, par les, en tout cas, non pas les premiers mois, qui sont toujours ceux de l'enthousiasme. Il y a eu beaucoup de changements tout de même dans les premiers mois de 1981 ou même de 1982. Mais ils ont été déçus globalement. Et pourquoi ce pouvoir n'a pas donné corps à toutes les espérances qui avaient pu naître, même de façon vague avant? C'est parce que ce programme de la gauche était resté prisonnier de la vision du programme commun. Il a considéré que les nationalisations étaient le nec plus ultra du changement social. Ça n'a pas été le cas. Et surtout, quand il y a eu le choc de 1983 de la rigueur, la gauche est restée sans nom. Elle n'a pas été capable de qualifier ce qui lui arrivait. Et au fond, la politique, c'est quand même cela. Être capable, on a simplement parlé de parenthèse, de transition. On a employé des mots équivoques pour éviter de penser ce qui se passait.
Mais alors, vous rappelez par exemple Régis Debray. Régis Debray dit « Les intellectuels ne sont plus là, les intellectuels devraient venir aux côtés de François Mitterrand. »
Oui, mais alors, évidemment, un certain nombre de personnes, c'était le cas de Max Gallot, qui était porte-parole du gouvernement, et de Régis Debray, qui à l'époque était conseiller du président à l'Élysée, disaient « Mais si, vous pouvez avoir une fonction utile, mettez-vous en rang pour chanter de concert avec le pouvoir. »
Au-delà de ça, quand même, c'est une forme de désillusion par rapport aux politiques. Par exemple, vous rappelez un sommet à Berlin, en juin 2000, vous y êtes invité aux côtés de Georges Charpak. Georges Charpak doit expliquer, c'est un prix Nobel de physique, il doit expliquer quelle est l'urgence du climat. Et vous, on vous a délégué en quelque sorte d'expliquer devant ces chefs d'État en quoi il y a une urgence sociale. Et vous dites, nous avons eu 20 minutes pour balbutier quelques généralités. Lui sur l'état de la planète, et moi sur le rôle de la société civile et la nécessité de refonder les institutions de solidarité. Puis j'ai été stupéfait de n'entendre émettre aucune idée ou formuler aucun projet précis. Cela a été une simple cascade de mots qui résonnait agréablement à toute oreille de centre-gauche. Ce qui est quand même une manière extrêmement forte de dire on ne peut rien faire avec les politiques, ce ne sont pas des gens sérieux.
C'est ça, et c'est à la fois aussi autre chose. C'est que dans ces années-là, au tournant des années 2000, c'est Blair en Grande-Bretagne. Et c'est toute l'idée blairiste de la troisième voie. Et cette idée, dès le début, moi j'ai pensé qu'elle elle allait être un échec parce que elle n'allait pas véritablement vers une voie nouvelle. Elle allait simplement vers une célébration, pourrait-on dire, de l'égalité des chances avec une séparation totale entre l'économique et le social.
Ce qui n'est pas rien quand même, l'égalité des chances.
Ça n'est pas rien, mais quand l'égalité des chances, ça finit par dire qu'il faut avoir des politiques pour la petite enfance, parce que l'égalité des chances, telle que la concevait Blair, c'était de dire il faut rendre aussi les gens responsables. Et qui est le seul irresponsable qui mérite absolument d'être aidé par la société? C'est le petit enfant qui lui est le symbole de l'innocence. Donc la révolution sociale de Blair a simplement consisté à adopter une politique très audacieuse pour la petite enfance. Donc je crois que ça n'est pas la redéfinition du social en général. Et cet événement, cette conférence, pour moi, a été un électrochoc. Et c'est le moment où j'ai senti qu'il ne suffisait plus ce que j'avais fait, moi, pendant les années 80 et 90, comme beaucoup. Nous étions retournés à nos archives, nous étions retournés dans les bibliothèques en disant le temps de l'engagement est un peu passé et donc il faut repartir dans notre travail académique. Et là, j'ai senti qu'il fallait au contraire, redéfinir le travail académique.
Bon, mais cette désillusion, elle se poursuit au-delà de Blair, elle se poursuit avec Jospin, elle se poursuit avec Hollande. On ne peut pas dire, Pierre-Rosan Vallon, que dans ce récit de l'histoire intellectuelle et politique depuis 1968, la fin soit plus heureuse que cette période de l'an 2000.
Certainement
Jospin
pas.
Est encore une déception pour vous. Hollande, j'ai presque envie de dire, je n'en parle pas.
Oui, mais pourquoi il y a cette déception? Alors bien sûr, il y a toujours des petits éléments positifs qu'on peut mentionner pour se rassurer. Mais c'est parce que il y a le vide. C'est le vide de l'idée, c'est le vide de la proposition. Quelqu'un a dit au soir de la défaite de Hollande, Hollande a perdu parce que sa gauche n'avait plus rien à dire. Eh bien je crois que c'est vraiment cela. Aujourd'hui, la gauche n'a plus rien à dire. Et comme dans ce vide qui s'est créé dans ce brouillard, elle n'a plus sa place à cause de cela. Et au contraire, c'est peut-être la kermesse des illusions, c'est peut-être la kermesse des démagogues qui triomphent. Mais je dirais, le principal coupable de la situation dans laquelle nous nous trouvons, d'un certain point de vue, c'est le manque d'idées. Et là, je crois qu'il faut que le monde intellectuel se rende compte qu'il a sa grande responsabilité dans cela.
Mais alors, justement, cette grande responsabilité, par exemple, on voit que lorsqu'il est question du populisme, il n'y a pas de véritable réflexion sur le populisme. Je veux dire, si on prend par exemple le phénomène du totalitarisme dans les années 30, il a fallu attendre, par exemple, Hannah Arendt pour avoir une pensée du totalitarisme. Aujourd'hui, nous n'avons pas cette pensée du populisme. Vous êtes d'accord ou pas ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. Je n'en tire pas argument pour rappeler tout de même que, justement, je prépare un livre sur le populisme à cause de ce sentiment qu'on n'est pas encore allé au fond du phénomène. Et beaucoup de livres qui paraissent se contentent de faire l'équivalence entre populisme et démagogie ou de faire l'équivalence entre populisme et démocratie illibérale, comme on dit de plus en plus. Mais je pense qu'on ne voit pas véritablement le phénomène populiste comme naissant à l'intérieur de la démocratie, comme naissant des inachèvements de la démocratie et naissant aussi du fait que la société a le sentiment de ne pas avoir sa place, de ne pas être écoutée et de ne pas trouver de réponse à ses problèmes.
Et dans le même temps, vous dites que pour les intellectuels, pour les universitaires, parce qu'il y a souvent équivalence entre intellectuels et universitaires, ou en tout cas, ceux que vous nommez sont bien souvent des universitaires.
Tout à fait.
Rosanvallon, il y a une sorte de fuite dans l'érudition. Il y a un certain nombre de stratégies qui permettent pour eux de ne pas se coltiner avec le réel. Tandis que vous expliquez que vous avez souvent été tenté, vous, au contraire, d'être au plus près du réel.
En tout cas, moi, cette fuite dans l'érudition, je peux dire que j'en étais partie prenante aussi, d'une certaine manière, dans les années 80-90, avec tous les livres de fond que j'ai fait sur l'histoire de la démocratie française. Mais maintenant, il faut aller plus loin. Et d'un certain point de vue, c'est ce que j'essayais de faire avec le programme de publication de La République des idées. C'est de rendre accessible au public, au grand public, les recherches en sciences sociales qui pouvaient le plus informer les débats contemporains. Aujourd'hui, juste un exemple, aujourd'hui, alors que l'on parle véritablement à coups de slogans et d'approximations de l'immigration, publier François Héran, qui est maintenant professeur au collège, ce que j'avais fait il y a quelques années, ça remet les pendules à l'heure. Par exemple, quand on parle des menaces d'envahissement des migrants qui viennent du Sahel, François Héran montre, dans un travail qui vient d'être publié dans Population et Société, qu'il y a simplement 2% des migrations du Sahel qui viennent en Europe, et que 98% restent des migrations inter-africaines. Donc je crois aussi que pour donner un ton plus concret à nos débats, pour que ce ne soit pas un débat dans les fantasmes, un débat dans les préjugés, eh bien il faut retourner aux sciences sociales, et parfois il y a des travaux très importants qui sont publiés.
Pas de sujet tabou. Bien souvent, les politiques de droite, parce que, comme l'a dit Frédéric Saïs, sont bien souvent des politiques de droite qui utilisent cette expression, eh bien, ces politiques considèrent que ce sont les intellectuels de gauche qui façonnent les tabous, le politiquement correct. Qu'en pensez-vous, et notamment dans les différents débats actuels ?
On peut dire, je suis d'accord en grande partie avec ce qui était dit dans la chronique, c'est qu'il y a, on peut dire, il y a une sémantique de l'idée, il n'y a pas de tabou, c'est montré, on est iconoclaste et on est libre. Mais il y a aussi une sociologie, c'est-à-dire qu'en moyenne, critiquer les tabous de cette façon-là, c'est revendiquer un rapport à la réalité. Ça me fait penser à la fameuse phrase du patron des néo-conservateurs américains, Irving Kristol, qui disait un progressiste, c'est un conservateur, c'est un progressiste qui était agressé par la réalité. Mmh. Et donc, au fond, le conservateur est celui qui s'intéresse d'abord à la réalité.
Mais alors justement, qu'est-ce que vous répondez à ça ? Parce que
Le problème est l'analyse de la réalité. C'est bien sûr, si il fallait faire plaider pour être agressé par la réalité, eh bien, les sciences sociales demandent d'être agressé par la réalité tous les jours. Et être agressé par la réalité est une bonne chose. Mais très souvent, ceux qui prétendent justement lutter contre les tabous, c'est pour retomber dans des formes de préjugés et de vision étroite du monde.
Je vais vous citer un exemple. Vous publiez donc ce livre, Pierre Rosanvallon, c'est votre histoire intellectuelle et donc l'histoire des intellectuels français. Il y a un intellectuel aux États-Unis qui a beaucoup compté à la fin des années 90, c'est Francis Fukuyama, c'est lui qui a publié La fin de l'histoire, et ce week-end, justement, il était question de lui dans le Financial Times, puisque aujourd'hui, ça n'est plus un livre sur la fin de l'histoire qu'il publie, c'est un livre sur l'identité. Et il dit, ben voilà, l'identité est un impensé, est-ce que cette question de l'identité, par exemple, elle ne fait pas partie de ces thèmes que les intellectuels de gauche ont souvent soigneusement évités?
La question de l'identité, il faut la resituer dans un cadre plus large de questions. La question de l'identité, c'est celle de la façon de faire société. C'est la façon de pouvoir construire, adosser son histoire à quelque chose. Alors le mot, moi, identité, ne me fait pas peur, mais à condition de ne pas simplement définir l'identité comme la célébration d'un passé idéalisé, mais de définir l'identité comme la construction d'un monde commun entre des individus différents. Et donc là, on voit qu'un mot peut être revendiqué comme une sorte de bannière, mais en fait masquer le fait qu'on lui donne une définition extrêmement étroite et passéiste.
Alors si je parle de l'identité, c'est parce que autour de ce thème, des intellectuels, des essayistes, des journalistes, qu'un écrivain, qu'un historien, Daniel Lindenberg, a qualifié de nouveau réactionnaire, ces gens se sont agglomérés, ou en tout cas, vous avez considéré, Pierre Rosanvallon, qu'il faisait partie d'une même nébuleuse. C'est le terme que vous employez, le terme de nébuleuse. Et il serait responsable de la droitisation de la pensée française, ou en tout cas, il l'aurait accompagné. Parmi ces penseurs, on trouve Alain Finkielkraut. De quoi les accusez-vous? De quoi serait-il responsable, Pierre Rosanvallon?
D'abord, soyons bien clairs, Daniel Lindenberg avait publié dans une collection que je dirigeais, donc j'avais trouvé ce texte intéressant, sinon je ne l'aurais pas publié, avait employé l'expression de néo-réactionnaire. Plus récemment, un auteur comme Antoine Compagnon a proposé le terme d'anti-moderne, dans un sens qui pouvait être voisin. Peu importe les définitions, l'inconvénient qu'il y a à trouver un mot unique, c'est qu'il ne faut pas donner l'impression qu'il y a une seule école de pensée. C'est pour cela que j'emploie l'expression de nébuleuse. Mais s'il y a une nébuleuse, parce qu'il y a bien des tempéraments différents, il y a des essayistes pressés et puis des auteurs plus savants, il y a des journalistes approximatifs et puis il y a des méditations plus profondes. Mais dans tous les cas, cette nébuleuse, elle partage un certain nombre de points communs. Elle partage d'abord, ce qui est très important en politique, elle partage des passions communes. Elle partage des répulsions. Elle partage des agacements. Elle partage des accusations. Et on voit bien le rôle que ce rapport négatif à la réalité joue en politique. Il est absolument essentiel. La politique n'est pas simplement faite d'intérêts, n'est pas simplement faite de raisons, mais elle est aussi faite de ses passions, de ses répulsions, de ses agacements. Et toute cette nébuleuse a les mêmes répulsions, les mêmes agacements, les mêmes accusations. Contre 68, par exemple, on peut dire que dans cette nébuleuse, 68 est unanimement accusé d'avoir été le berceau de toutes les dérives contemporaines. On peut dire que dans cette nébuleuse, il y a une même condamnation de la société des droits de l'homme qui célèbre les droits de l'homme. Dans cette nébuleuse, il y a une même célébration aussi d'une forme que j'appellerais, de façon peut-être un peu simpliste, intégriste de la laïcité. Dans cette nébuleuse, il y a aussi une même attirance, justement, pour ce mot qui est un peu le mot de code, je dirais, de cette nébuleuse, qui est celui d'identité.
Mais alors, l'une des spécificités, quand même, de cette scène intellectuelle française, c'est que vous venez des mêmes lieux, alors pas tous, évidemment, mais Marcel Gauchet, Pierre Manant qui est aujourd'hui considéré comme un intellectuel important à droite, vous-même, Pierre Rosanvallon, François Furet, disparu trop tôt et par conséquent on ne sait pas trop comment François Furet aurait évolué s'il avait vécu, mais le fait de venir du même endroit et d'avoir en quelque sorte splitté, si vous étiez un groupe de rock, c'est ce que l'on dirait, parce que les uns sont partis plus à droite sur d'autres sujets, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Ça m'inspire le fait que c'est caractéristique des grandes périodes de retournement, des grandes périodes de mutation. Moi, comme historien, je connais bien l'histoire de la fin des années, de la fin du 19e siècle. La fin du 19e siècle, on voit dans les milieux ultra-activistes, des blanquistes, par exemple, qui étaient les révolutionnaires les plus déterminés, eh bien, toute une partie de ces blanquistes se convertir au boulangisme, et puis après se rapprocher même des idées d'un Barrès. C'est aussi la période.
Et est-ce que vous feriez le parallèle avec certains d'entre
Je crois qu'il faut, simplement le parallèle qu'il faut faire, c'est un parallèle pour montrer qu'il y a des années électriques. Il y a des années de retournement.
Donc nous sommes dans des années électriques.
Dans ces années, effectivement, toutes les frontières deviennent brouillées. Toutes les frontières, regardez même l'itinéraire de quelqu'un comme Régis Debray. Il était le symbole dans les années 70 du jeune révolutionnaire. Et dans les années 60, il en est encore plus l'incarnation quand il publiait La Révolution dans la Révolution.
Et alors aujourd'hui
Il est de notable mitterrandiste. Il est devenu un personnage hybride parce que par certains côtés, il continue à rester fidèle à un certain nombre d'éléments de gauche. Mais de l'autre côté, c'était le premier pourfendeur de mai 68. De l'autre côté, il se fait aussi...
Mais ça, là, pour le coup, il n'a pas attendu
Il a fait dès
la période actuelle.
Il a fait dès la fin des années 70.
C'est une spécificité de Régis Debray.
Sa spécificité, c'est qu'il a été, en quelque sorte, un des premiers exemples de ces reconversions.
Mais alors, vous dites quelque chose d'intéressant. Vous dites, finalement... Ces gens-là, ces nouveaux réactionnaires, donc Alain Finkielkraut, peut-être Régis Debray, je ne sais pas si vous le visez également par ce qualificatif, ils ont une pensée de droite dans un langage de gauche.
Oui, parce que une grande partie, en tout cas pour ceux qui viennent de la gauche, mais aussi pour ceux qui viennent de la droite. Regardez quelqu'un comme Alain de Benoît, par exemple.
Alors Alain de Benoît,
qui était le fondateur de ce qu'on a appelé dans les années 70 la nouvelle droite, on peut dire même la nouvelle extrême droite, parce que c'était quelqu'un qui développait des théories de racisme biologique, c'était quelqu'un qui développait vraiment des théories, c'était le théoricien de l'extrême droite. Mais en même temps, on peut dire qu'il y a un point commun à toutes ces personnes, c'est qu'elles détestent le monde contemporain. Et ce qui brouille les pistes, c'est que même l'extrême droite intellectuelle la plus classique, c'était vrai à la fin du 19e siècle, elle est anticapitaliste. Drummond haïssait le capitalisme. Et il y a beaucoup de confusion parce que beaucoup de personnes peuvent se retrouver dans l'antilibéralisme ou dans l'anticapitalisme, je dirais, de cette nébuleuse. Et attrape donc des gens qui viennent de la gauche. Et c'est pour cela que très souvent, c'est au nom de la défense, je dirais, du peuple, c'est au nom de la fidélité aux idéaux premiers de la gauche que certains se réclament, ont fait avec Tintamarre, leur entrée dans cette nébuleuse aujourd'hui.
Oui, mais alors... Ceux-là, donc, ces nouveaux réactionnaires, bien souvent, ils vous répondent, et d'ailleurs, vous en parlez dans votre ouvrage, Pierre-Rosan Vallon, que la gauche fait beaucoup trop de sociétal, elle est beaucoup trop proche des bobos, et finalement, elle fait très peu de social, elle n'en fait pas assez pour le peuple.
Alors, j'accepte en partie cette critique, mais qu'elle fasse trop de sociétal, on n'en fait jamais assez trop de sociétal. Je dirais, le mouvement de développement des droits de l'homme, c'est tout de même le grand mouvement historique de la modernité qui a commencé avec les révolutions modernes. Faire sortir l'individu de l'état de minorité, c'est tout de même l'émanciper. Émanciper l'homme de la femme, émanciper le salarié de l'entreprise. Dans tous les domaines, l'émancipation passe par des droits. Et ces droits, ils ne sont pas encore tous conquis. Ou ceux qui ont été conquis ne sont pas toujours mis en avant. Donc dire qu'on a trop fait de sociétal me paraît être quelque chose d'horrible. Non, nous n'avons pas fait assez de sociétal. Il faut continuer à aller dans cette direction. Mais effectivement, il y a eu une sorte de vide de la pensée sociale. Ça, je suis bien d'accord. Vide pour la rénovation de l'État-providence. Vide aussi pour repenser un travail émancipé. Aujourd'hui, dans les entreprises, on voit bien qu'il y a un conflit entre les individus, veulent être de plus en plus acceptés et reconnus dans leur singularité, mais en même temps, leur singularité, ça devient la matière de la production.
Mais c'est ceux qui disent, comme Alain Finkielkraut, qu'il n'y a pas que l'insécurité économique, il y a aussi l'insécurité culturelle. Le terme n'est pas d'Alain Finkielkraut, mais de Laurent Bouvet, par exemple. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre Rosanvallon ?
L'insécurité culturelle, je lui donnerai un autre nom. C'est ce qu'on a appelé, c'est ce que Michael Walzer, un grand philosophe politique américain, appelé le développement d'une société d'éloignement. L'insécurité culturelle, c'est que de plus en plus dans la société, de personnes vivent dans leur petit ghetto. De plus en plus de personnes vivent isolées des autres. Et l'insécurité culturelle, c'est la situation qui est créée par l'ignorance mutuelle, par le fait qu'on ne perçoit les autres qu'à travers des stéréotypes, qu'à travers des images, qu'à partir de préjugés. Donc, plutôt que de parler d'insécurité culturelle, je préférerais que l'on parle de société d'ignorance mutuelle, parce que c'est une société dans laquelle on ne se connaît pas, dans laquelle il n'y a pas, on ne voit pas la réalité, mais on voit des stéréotypes, est une société qui s'enferme dans la distance et qui produit en quelque sorte des réactions les plus négatives.
Mais alors, même chose sur la question de la laïcité, par exemple. Comment penseriez-vous cette question ? Parce que, pour certains, la laïcité, c'est ce qui va protéger à la fois donc tous les croyants, mais aussi surtout tous les laïcs et ceux qui souhaitent l'être, et puis aussi ceux qui pensent finalement qu'il faut prendre en compte l'inquiétude de ceux qui ne veulent pas que la France change, par exemple, Pierre Rosanvallon.
Prenons cet exemple de la laïcité. La laïcité, au sens originel du terme, c'est redéfinir des rapports. Après des longues périodes de catholicisme dominant en France, y compris dans les institutions, c'est redéfinir les rapports entre l'État républicain et les religions. C'est ça la loi de 1905. Et aujourd'hui, on veut donner un sens étendu à la laïcité, on veut en faire le moteur du vivre ensemble. On veut faire une laïcité qui définit le rapport entre les individus, le rapport dans les comportements sociaux, et pas simplement cette question de rapport de l'État à la religion. Et c'est peut-être parce qu'on est impuissant à redéfinir ces rapports sociaux que l'on veut faire porter à la laïcité le poids de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il y a à reconstruire. Donc c'est une perspective imaginaire de la laïcité, comme si une définition de la laïcité était ce qui allait permettre de reconstruire le lien social.
Mais alors ce matin dans la presse, dans le Figaro, il y a un rapport de l'Institut Montaigne, donc c'est un journal marqué à droite qui publie un rapport d'un institut marqué à droite sur l'islamisation du territoire, en tout cas d'une partie du territoire. Pour vous, ce sont des fantasmes, c'est quelque chose qui existe mais qui est très localisé. Parce que finalement, la question du réel, bien souvent, elle est là, Pierre Rosanvallon, entre ceux qui pensent qu'il y a une islamisation et qu'il faut lutter contre, et ceux qui estiment que tout cela sont des créations de l'esprit.
Si on regarde les faits statistiquement, on peut dire que ce sont des phénomènes minoritaires. Si on les regarde dans ce qu'ils produisent dans la société, ce sont des faits réels dont il faut s'occuper. Et ces faits, ce sont des formes de séparatisme social, de séparatisme religieux. Et c'est parce que nous sommes aussi, je pense, dans une société désintégrée que se produisent des séparatismes protecteurs. Donc, il faut voir les problèmes dans toute leur complexité et ne pas simplement voir ce problème à travers le seul filtre religieux. Le retour de la religion, ça n'est pas un retour qui se fait dans l'air. Le retour de la religion, c'est le retour d'une façon de retrouver une dignité, de retrouver un sens social dans un monde qui est décomposé et dans lequel on ne trouve plus sa place.
Mais alors par exemple, Marcel Gauchet, qui a été très proche de vous lorsque vous étiez au centre Raymond Aron, Marcel Gauchet, lorsqu'il pense la religion comme finalement l'un des facteurs d'explication, la fin du phénomène religieux, et pour lui, finalement, l'un des facteurs d'explication de ce à quoi on assiste. Vous êtes d'accord ou pas?
Là, il est confronté à une difficulté, c'est que le grand livre qu'il a écrit sur la religion, qui est un livre du début des années 1980, donc qui est bien antérieur à tout ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un livre, on pourrait dire, d'inspiration weberienne, au sens large du terme.
Max Weber, un grand sociologue.
Grand sociologue qui, le premier, a parlé de désenchantement du monde. C'est le titre du livre de Marcel Gauchet. Et Marcel Gauchet analysait ce désenchantement. Et aujourd'hui, effectivement, il doit faire un petit peu des acrobaties intellectuelles pour raccrocher le fait, au contraire, d'un retour de la religion comme un phénomène social massif.
Mais pour vous, justement, est-ce
Le retour de la religion, il est un fait partout dans le monde. Mais le retour de la religion, il est à la mesure, pourrait-on dire, du désarroi et du fait que la société est à la recherche d'elle-même. Et donc la religion, le retour de la religion, c'est le signe aussi d'un échec du politique à instituer le social. Le retour de la religion, c'est le signe d'un échec qui pèse lourdement sur nos épaules.
Est-ce que ça signifie finalement que, pour vous, les premières lectures, la matrice marxiste, je le dis à gros traits, est ce qui prime encore dans votre vision du monde, c'est-à-dire que la religion, telle que vous l'analysez, Pierre Rosanballon, est finalement un sous-produit des structures sociales?
Je pense qu'il y avait un très grand simplisme dans la vision marxiste qui consiste à dire justement que la religion n'était qu'une superstructure. Alors qu'aujourd'hui, si on veut considérer le phénomène religieux comme fait institutionnel aussi et comme fait de pratique sociale, il est également intimement lié à la reconnaissance de la sphère du spirituel au sens très large du terme. Et le spirituel est beaucoup plus large que le religieux. Et je pense que Marx avait tout à fait tort de bannir cette dimension spirituelle et que sa critique de la religion était une critique, pourrait-on dire, matérialiste, un peu simpliste de ce point de vue-là. Parce que même une société démocratique vivante serait une société qui, au contraire, si chaque individu est face à lui-même, à la réflexion sur l'univers, sa position vis-à-vis des autres, la dimension spirituelle, elle peut trouver sa place au sens large du terme.
Et alors, ce que l'on ne comprend pas dans cette évolution, finalement, de la scène intellectuelle que vous décrivez, Pierre Rosanballon, dans votre livre « Notre histoire intellectuelle et politique », vous décrivez finalement des gens qui ont grandi ensemble et qui se sont confrontés aux mêmes questions, puisque je le rappelle pour les auditeurs, des gens comme Pierre Manant, Marcel Gauchet et vous-même, était proche. Est-ce que, par exemple, lorsqu'Alain Finkielkraut, puisqu'il était à ce micro, vous propose de venir dialoguer avec lui à réplique et que vous refusez, est-ce que ça aussi, ça n'est pas un signe des temps où les gens ne veulent plus se parler?
Là, non. En ce qui concerne cet exemple précis, si je n'ai pas répondu à l'invitation d'Alain Finkielkraut, c'est pour une raison très simple, c'est qu'il ne me paraissait pas sain d'être dans un dialogue où l'animateur était juge et parti. C'est tout simplement pour cela. Mais dialoguer avec Marcel Gauchet, il m'est arrivé de le faire il n'y a pas trop longtemps, ainsi que Pierre Manant dans les pages du Nouvel Observateur, et je serais tout à fait ouvert à une discussion avec eux, et même je la souhaite d'un certain
point de vue. Et avec Alain Finkielkraut.
Bien sûr, je suis prêt à discuter, ma condition justement qu'il sorte de la posture. Parce que autant je critique un certain nombre d'intellectuels de gauche qui se réfugient dans la posture, mais lui me semble aussi être un essayiste, disons, pas vraiment un intellectuel, un essayiste qui se réfugie aussi très largement dans la posture, ce qui...
Posture,
rend...
dites-nous ce que vous entendez par ce terme.
Dans la posture, il s'est forgé, en quelque sorte, une ligne de combat sur les questions de l'identité, etc., dont il ne change pas. Et lui, pour le coup, ce sont toujours les mêmes faits, les mêmes arguments qui reviennent. Et je lui donnerai un conseil, c'est de lire un peu plus de sciences sociales pour avoir une pensée peut-être un peu plus ouverte et un peu plus libre.
Lorsque vous êtes confronté à ces débats, qui sont des débats lancinants, vous dirigez un groupe d'intellectuels, puisque la République des idées, c'est aussi des intellectuels que parfois vous avez publiés alors qu'ils étaient jeunes. Aujourd'hui, ils sont très connus. On peut citer, par exemple, Thomas Piketty. Aujourd'hui, est-ce que vous n'avez pas envie, dans ce cas-là, de vous confronter à ces questions-là pour essayer de voir dans quelle mesure ces intellectuels de droite, néo-réactionnaires, enfin, je ne sais pas comment les qualifier, se situent plus dans le fantasme, puisque c'est ce que vous venez de dire, que dans la réalité, Pierre Rosanvallon?
Je prends un exemple très simple. Les thèses de Guilly sur le séparatisme social.
Jean-Christophe Guilly.
Jean-Christophe Guilly. Ces thèses, elles ont quand même été critiquées dans les faits par les travaux de Davzy, par les travaux de Pierre Vels, et avant l'aide dans un livre que nous allons bientôt publier
donc,
à la République
des
idées.
Là, on est dans des débats au sein donc de la géographie urbaine, la
voilà,
sociologie.
Voilà, mais en fait, c'était...
Je précise pour les auditeurs.
Mais les thèmes développent, grosso modo, Guilly dit, la géographie électorale du Front National, c'est la géographie électorale de l'abandon, et il y a la coupure entre la France qui marche et la France qui ne marche pas, c'est la coupure entre les villes et les zones périurbaines, disons. Eh bien, cette vision, les travaux scientifiques montrent qu'elle est erronée, par exemple. Donc, je crois que c'est important d'avoir ces discussions sur le terrain précis et de ne pas en rester à la généralité.
J'ai dit que votre livre était mélancolique et qu'il jetait finalement un regard plutôt désenchanté sur le politique, sur la scène intellectuelle. Et vous m'avez dit, oui, mais il y a malgré tout, à la fin, une volonté d'en sortir, un regard optimiste. Comment, Pierre Rosanvallon?
Le regard optimiste, je parle d'abord pour moi-même. J'ai le sentiment que depuis une quinzaine d'années, j'ai travailler essentiellement sur les mutations de la démocratie. Et j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce qui n'était pas le cas auparavant, je suis en mesure, en moyen, d'indiquer des voies vraiment théorisées et pensées du renouveau démocratique, au-delà de vagues généralités sur la participation, la démocratie directe, etc. Et c'est la même chose pour la refondation de la pensée sociale. Ce livre, je l'ai écrit aussi, il correspond à un moment de basculement pour moi. Il correspond à un moment où, après tout ce capital que j'ai acquis dans mes recherches historiques ou dans mes recherches sociologiques, je pense maintenant rentrer dans une nouvelle phase où je renoue d'un certain point de vue avec mes travaux des années 70. En 1970, j'ai publié avec Patrick Vivray ce livre pour une nouvelle culture politique. Mmh. Eh bien, j'ai le sentiment que ce livre n'était qu'un essai balbutiant, mais que maintenant, je pense être capable de transformer cet essai balbutiant en réflexion et en proposition théorique véritablement avancée.
Ce qui veut dire que finalement, vous gardez confiance dans les sciences sociales. Alors, ici, à France Culture, évidemment, on a plutôt... On est plutôt d'accord avec vous pour croire dans la capacité des sciences sociales à changer la représentation qu'on se fait du monde. Mais lorsque vous voyez le poids de certains essais, je songe par exemple à Éric Zemmour qui publie un ouvrage sur le destin français, un ouvrage où il est essentiellement question donc de fixisme, ou une vision très essentialiste, comme vous diriez, de l'histoire française avec une sorte de permanence, et si les choses ne sont pas permanentes, eh bien l'impermanence doit être combattue. Vous n'avez pas l'impression que le combat est inégal entre des intellectuels qui doivent prendre mille précautions et des essayistes qui sont évidemment plus efficaces sur le terrain médiatique?
Disons que j'ai un certain optimisme intellectuel, parce que quand je regarde dans le passé, lorsque des idées se sont constituées en armes de combat, c'était le cas du combat des Lumières, hein, d'un certain point de vue, elles ont produit des effets historiques. Au XIXe siècle, lorsque la pensée sociale, la pensée marxiste s'est développée, elle a produit des effets historiques. Et je pense que lorsque des idées sont fortes, ces idées peuvent produire des effets historiques. C'était le cas dans l'histoire, et à chaque fois, évidemment, ces idées, elles se sont développées, ou elles ont eu à combattre des conservatismes, des idéologies, des visions rétrogrades. Et donc, cela continue. Mais ça n'est pas les centaines de milliers d'exemplaires que peut vendre Zemmour qui empêchera, me semble-t-il, peu à peu. On est tout de même dans des sociétés dans lesquelles le niveau d'éducation augmente. Et ce niveau d'éducation augmente, il ne faut pas désespérer du fait qu'il puisse produire des effets pour rendre les individus plus conscients de la réalité.
Mais ça veut dire qu'Éric Zemmour, c'est vieux comme le boulangisme, c'est vieux comme finalement tous ces mouvements, c'est moins important que le boulangisme?
Non, c'est pas que c'est moins important, mais c'est un essayiste. Drummond a été tout puissant dans les années 1890, mais Drummond...
c'est justement...
Oui, mais Drummond...
Vous savez comment ça s'est terminé, Pierre?
Bien sûr, mais Drummond a moins compté pour changer la France que ceux qui ont inventé la République sociale, par exemple.